Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'après un sondage Ipsos publié en novembre 2020, 10% des personnes interrogées disent avoir été victimes d'inceste. Jusqu'ici, on parlait très peu dans les médias de ce fléau de l'ombre, jusqu'à la sortie du livre de Camille Kouchner sur le sujet, La Familia Grande, et jusqu'à l'apparition du hashtag MeTooInceste à la mi-janvier. Des centaines d'hommes et de femmes ont alors raconté, en quelques mots sur Twitter, l'inceste subi pendant leur enfance. Parmi cette foule de messages, celui de Romain, un comédien, auteur et chanteur âgé de 44 ans, Claudia Prolongeau est allée à sa rencontre pour l'écouter.
Romain vit entre Paris et l'heure. C'est sa compagne qui m'ouvre la porte.
Bonjour, je suis la journaliste du Parisien, Claudia Prolongeau. Comment allez-vous ?
Bien, et vous ?
Ils ne sont pas mariés, n'ont pas d'enfants, ne vivent pas ensemble à Paris, mais ont cette maison, qu'il appelle en souriant leur lieu commun. Elle est typique de la région, c'est une longère avec une très grosse cheminée et une pièce annexée dont Romain a fait son bureau.
Et là, derrière vous, il y a une grande bibliothèque. Vous pouvez me dire un peu ce qu'il y a dedans ?
Il y a quelques ouvrages sur la chanson, quelques recueils de poésie, quelques essais, et j'ai deux livres sur Barbara. Alors Barbara, c'est quelqu'un qui fait complètement partie de ma vie, pour le coup, que j'ai vu en concert 4 fois. Mes parents m'ont emmené. C'est une des artistes que j'ai le plus écouté. Quand j'écoute Barbara chanter, c'est comme si je recevais quelque chose sans filtre. C'est une complicité, une connivence... un peu mystérieuse.
Vous pensez que c'est peut-être lié à la chanson L'Aigle Noir de Barbara, dans laquelle elle fait allusion à l'inceste dont elle a été victime, elle aussi, de la part de son père ?
C'est possible. Moi, j'ai découvert tardivement quel était le sujet, l'inspiration de la chanson L'Aigle Noir. Mais en tout cas, je pense que dans la sensibilité qui est la sienne, alors j'allais dire peut-être qui est la nôtre, effectivement, les failles qui sont les nôtres, et ce qu'on peut mettre en branle pour s'en sortir, pour que la vie soit aussi joyeuse, légère, tout simplement pour qu'elle ait un sens. Il y a probablement là un rapprochement peut-être à faire, peut-être une complicité.
Est-ce que je peux vous laisser me raconter ce qui s'est passé avec votre père, quand ça a commencé et comment ça a commencé ?
La première fois, j'ai du mal à savoir si j'avais... 6 ans ou 7 ans. Mais je crois que j'avais plutôt 7 ans. Je dormais depuis un bon moment, je pense. Mon père est venu me rejoindre dans mon lit, il était nu. Il m'a demandé si je voulais qu'il me montre comment on fait les enfants. Il m'a montré son sexe, il bandait. Il m'a demandé de le toucher. Il m'a montré comment le masturber. Il m'a demandé d'embrasser son sexe. Il s'est masturbé lui-même. Il l'a éjaculé. Il m'a dit qu'il fallait le dire à personne. Il m'a dit qu'il fallait pas le dire, surtout à maman. Et... il est retourné se coucher. En fait, la maison n'était pas très grande, donc il était dans la même chambre que moi. Il dormait dans la même chambre que moi. Moi, j'étais sur un matelas par terre et lui, il était dans un lit. Et dans mon souvenir, je me suis rendormi tout de suite.
Et vous vous souvenez avoir perçu que c'était pas normal ?
Non, pas spécialement. Puisque pour moi, la sexualité n'était située à aucun endroit. Elle n'existait tout simplement pas, donc pourquoi pas là ?
Entre les 7 et les 14 ans de Romain, il va être violé régulièrement par son père. Pas forcément fréquemment. Pendant des mois parfois, il ne se passe rien. Mais ça finit toujours par revenir. Dans leur maison normande, ou dans l'appartement parisien, où il grandit avec ses deux frères et sa sœur. Les enfants baignent dans les livres et la musique. Pour s'exprimer, ils sont encouragés à trouver les mots justes. La mère est réalisatrice chez France Culture, le père professeur de français au collège. Des viols, Romain ne dit rien, à personne. Il se souvient qu'un mercredi après-midi, son père lui propose d'aller faire une sieste avec lui. Romain dit non, son père n'insiste pas.
Je crois que c'est la seule fois où je lui ai dit non. Il n'y a jamais eu de contrainte au sens physique. Je me souviens parfois l'avoir rejoint de moi-même. C'est-à-dire que le problème, c'est aussi à un moment donné, puisque de 7 ans à 14 ans, on passe aussi par la phase de l'éveil, du désir, etc. Et finalement, de fait, j'ai découvert le plaisir sexuel avec mon père, véritablement. Si on était toujours dans un rapport contraint, en pleine conscience d'être absolument opposé à ce qui est en train de se produire, on pourrait plus facilement s'en détacher, c'est-à-dire je ne voulais pas, j'ai été forcé. Mais en ce qui me concerne, la difficulté, c'est de remettre tout ça au bon endroit après, puisqu'il y a aussi ce rapport de désir et de plaisir qui va intervenir et qui, lui, pour le coup, n'est absolument pas au bon endroit. Quand on imagine un père incestueux, on imagine le mec à moitié débile, à moitié alcoolo, insensible, etc. Et mon père, c'était pas ça du tout. C'était quelqu'un qui était très intéressant, c'était, hélas, un professeur de français en collège, très cultivé, qui lisait beaucoup, qui écrivait beaucoup. Il faisait extrêmement bien la cuisine. Moi, j'aimais beaucoup faire la cuisine avec lui. Il y a plein de choses qui me constituent, qui me rendent heureux, qui me viennent directement de mon père. Je veux dire, le goût pour la chanson, par exemple, la chanson française, c'est quelque chose qui est très central dans ma vie. Et, j'en écris, j'en écoute. Ça vient de lui. C'est lui qui m'a fait écouter des chansons très tôt. Il m'a fait découvrir Bobby Lapointe, il m'a fait découvrir Barbara, il m'a fait découvrir les frères Jacques, ça. Donc, c'est ça qui est délicat, c'est que mon père a été un père incestueux, donc c'est un criminel, et j'en suis personnellement la victime, mais ça a aussi été un bon père.
Pendant plusieurs années, Romain ne parle pas du tout des viols dont il est victime. Et puis à 10 ou 11 ans, il ne sait plus trop pourquoi, il décide de s'en ouvrir à une copine d'école. La petite fille lui révèle alors qu'elle est aussi victime de son père. Ce qui passe à ce moment pour une incroyable coïncidence ne l'est en fait pas du tout. Selon les spécialistes, dans chaque classe de CM2, 2 à 3 enfants sont victimes d'inceste. Partageant ce secret avec cette seule amie, Romain continue à grandir. Il vit toujours dans le même appartement avec ses parents et va souvent voir sa sœur, qui s'est installée en couple dans son propre logement. Un jour, sans qu'il ne sache comment, elle lui fait comprendre qu'elle a tout appris et essaye de le confronter.
Elle m'a demandé si s'était passé quelque chose avec papa. Et je lui ai dit non, pas du tout, rien. Et je suis rentré chez moi et je me suis dit bon, j'ai pas réussi à lui dire, mais je vais le lui écrire. Et je me suis mis à mon bureau et j'ai commencé à écrire à ma sœur une lettre pour lui dire ce qui s'était passé avec mon père. Je suis retourné chez elle pour la mettre sous son paillasson et je suis parti. À la suite de ça, ma sœur en a parlé à la CPE de mon collège. Et je me souviens, j'étais en cours de PS. Et le prof de PS, au plein milieu du cours, il m'a dit « Romain, tu retournes au vestiaire, tu t'habilles et tu vas dans le bureau de l'assistante sociale. » L'assistante sociale a pris mon témoignage et je suis parti dormir chez ma sœur 3 semaines. Et au terme de ces 3 semaines, ma mère et mon frère aîné ont débarqué et ma mère m'a dit « Papa est mort ». Donc ce qui s'était passé, c'est que mon père partait donner ses cours, il était prof dans un collège, il a pris le métro qu'il prend d'habitude pour aller au collège, simplement au lieu de descendre au hall pour prendre son RER, il est allé à pied à la gare Saint-Lazare, il a commencé à écrire une lettre, il est monté dans le train pour aller dans sa maison en Normandie, il a continué d'écrire cette lettre dans le train, il a pris un bain de mer, il a conclu sa lettre, il a pris un poison, je ne sais pas lequel, et il est mort.
Comment vous savez tout ça ?
Parce que tout ça est dans la lettre.
Après le suicide de son père, Romain est comme anesthésié.
Moi, ce dont je me souviens à la mort de mon père, c'est que c'était un tel chaos dans ma tête que je n'avais pas de pensée. Au sens, j'étais incapable d'analyser quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'avais des problèmes de concentration énormes parce que j'étais complètement parasité dans tous les sens par ce que j'avais vécu et qui m'empêchait... qui m'empêchait de me concentrer sur autre chose.
Romain continue à grandir comme ça. À l'adolescence, c'est un garçon gentil, calme, qui ne fait pas de vagues. En classe, il n'arrive pas à se concentrer et ne ramène que des mauvaises notes. À la maison, après le suicide de son père, on parle beaucoup de ce qu'il a subi. Du moins avec ses frères, dont il apprend qu'ils étaient eux aussi victimes de leur père, et avec sa sœur, grâce à qui tout est sorti. Avec sa mère, en revanche, le sujet est impossible à aborder.
Je crois que ma mère, elle était incapable de ne pas faire comme si rien ne s'était passé. Sa manière à elle de dire qu'elle était avec nous, qu'elle nous accompagnait, c'était d'assurer le matériel. Et elle a vraiment réussi à assurer le matériel. Et pour le reste, il fallait qu'on se débrouille par nous-mêmes.
Votre père, vous m'avez dit qu'il était professeur au collège.
Ouais.
Vous savez s'il y a eu d'autres victimes que dans votre famille ?
D'autres victimes que dans ma famille ? Alors non.
Vous ne savez pas ?
Non, je ne le sais pas. Et quand mon père est mort, à ma connaissance, il n'y a pas eu... de travail et de fait, parce qu'il y avait quand même eu des classes vertes ou je sais pas quoi, des vacances, enfin je veux dire, il y avait eu des déplacements extérieurs au collège et tout ça, donc peut-être qu'il s'était absolument rien passé, je sais pas, hein. Mais je sais pas justement. Et bon, moi personnellement, je trouve ça vraiment hallucinant que ce travail ait pas été fait.
En première, Romain commence à suivre des cours de théâtre et à prendre de la distance avec ce qu'il a vécu. Pour la première fois, il arrive à tenter d'en analyser les conséquences. Il passe son bac et rentre dans un cours d'art dramatique à Paris, où il reste 3 ans et décide au même moment de commencer une psychothérapie. À cette période-là, ses nuits sont rythmées par un cauchemar, toujours le même, où il se jette d'une falaise et par des crises de larmes incontrôlées. 3 ans plus tard, Romain estime que ce suivi lui a permis d'obtenir de nouveaux outils pour reprendre le dessus. C'était il y a 15 ans, et depuis, il n'a pas ressenti le besoin d'y retourner. L'année dernière, Romain a retrouvé son ami de primaire, avec qui il était resté en contact longtemps, puis qu'il avait perdu de vue.
Elle n'a pas du tout eu le même parcours, puisqu'elle a fait tout le parcours judiciaire. Elle a témoigné contre son père, il y a eu un procès, son père est allé en prison. J'étais un peu jaloux d'elle parce que je me disais, mais jamais à moi, à un moment donné, à un endroit, de quelque manière que ce soit, la société ne m'a dit « tu es une victime, ton père est coupable, et voilà, c'est tout ». J'étais un peu jaloux parce que je me disais, ça l'a obligé, il lui a fallu un courage immense, mais ça l'a obligé à réagir, à ne plus être... cet objet de désir qu'on prend et qu'on laisse. Ce qui n'est pas mon cas, puisque j'ai jamais, moi, mis un point final au viol avec mon père. C'est mon père qui a arrêté dans un sens. D'une manière radicale, mais c'est, ça vient de lui. Parce que, d'une certaine manière, il l'a bien voulu. Moi, j'ai rien fait pour ça. Et donc, j'ai l'impression que, au début, comme à la fin, j'ai été manipulé. Cette amie peut se dire qu'elle a remis les choses à leur place.
À défaut de parler de tout ça avec sa mère, Romain a pu le faire avec sa grand-mère et une de ses tantes du côté de son père. Sans qu'elles en soient certaines, elles lui ont confié qu'elles pensaient que son père lui-même pouvait avoir été victime d'inceste de la part d'un oncle dans son enfance.
Ma tante savait ça, c'était probablement pas la seule. Et par exemple, ma mère, elle, ne l'a jamais su. Pour elle, elle épousait quelqu'un, elle voulait une famille nombreuse. Mon père voulait une famille nombreuse, leur projet était d'avoir une famille nombreuse. Et pour elle, elle épousait quelqu'un de tout à fait sain, enfin, elle se posait même pas la question. Alors qu'en fait, il y avait des gens autour, très proches, qui savaient qu'il y avait un problème énorme. Et avec toute cette libération de la parole qu'il y a aujourd'hui, je me dis, moi, je me serais pas retrouvé dans cette situation-là si j'avais 6 ans aujourd'hui. Alors, mon tweet, c'est « Mon père, de 7 à 14 ans. C'est tristement banal, nous sommes nombreux et pourtant, on se sent très seul. Être victime est une responsabilité. » Et la résilience est notre meilleure réponse, mais elle a un coût exorbitant. Hashtag MeTooInceste. J'écoutais France Inter et j'ai entendu dans le journal qu'il y avait un hashtag MeTooInceste qui, depuis la veille, déferlait sur Twitter. Et donc instantanément, je me suis dit « Ah cool, je vais mettre mon MeTooInceste ». Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit ça en une minute... Et j'ai tweeté. En fait, il ne faut pas être intimidé par ce qu'on a vécu. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a vécu. Il faut le regarder. Ça a existé et ça ne prend pas non plus toute la place. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que ça dans ma vie. Ça n'empêche pas que je suis quelqu'un de plutôt joyeux. En fait, je n'ai pas un besoin particulier du tout, impérieux, de le raconter ou de le dire. Mais simplement... Il y a aussi un moment où il faut remettre ça à sa place. Moi, je le considère comme un accident, c'est-à-dire un accident grave, mais c'est un accident. Et il n'y a pas de raison d'avoir honte d'avoir été victime d'un accident. Et je crois qu'il faut se... Alors, ça va paraître un peu incongru dit comme ça, mais en fait, il faut se détendre avec ces sujets-là. C'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps comme les accidents de la route, comme la lutte contre le cancer. Moi, j'aimerais que ça devienne un sujet de société comme un autre. Et si cette libération de la parole, ce livre de Camille Kouchner, doivent servir à quelque chose, c'est à ça.
Claudia, c'est très fort ce que vient de dire Romain à la fin. Est-ce que tu sais si la lutte contre l'inceste ou la prévention de l'inceste a déjà été déclarée grande cause nationale, par exemple ?
Non, elle ne l'a jamais été. En 2018, il y a eu une pétition pour faire de la protection de l'enfance une grande cause nationale. Ça n'a pas été le cas. La seule fois où la protection de l'enfance a été grande cause nationale, c'était en 1997, via l'association Le Secours Populaire, et c'est tout.
Le témoignage de Romain est bouleversant. Est-ce que tu as eu le sentiment que ça a été dur pour lui de parler ?
Non, j'étais assez surprise même. J'ai eu le sentiment qu'il employait des mots qu'il avait très bien choisis et que c'était pas la première fois qu'il le faisait. Ce qui a été difficile en revanche pour lui, c'était de parler de sa relation avec sa mère.
Il t'a d'ailleurs envoyé un message pour apporter des précisions là-dessus.
Oui, je pense que c'est important de le mentionner parce qu'il m'a dit dans ce message que c'était une chose à laquelle il avait réfléchi mille fois et qu'en fait il avait complètement oublié de me le dire. C'est clairement les questions sur sa mère qui l'ont mis le plus en difficulté au moment de cette interview. Et il m'a écrit dans un mail « Ma mère m'a toujours invitée au silence et c'est toujours le cas aujourd'hui. En 30 ans, elle ne m'a jamais demandé ce qui s'était passé. Je sais maintenant que cette injonction au silence a eu sur moi un effet aussi dévastateur que les viols, pas moins. Outre le moyen de prévenir et d'éviter le plus de drames possible à l'avenir, le hashtag MeTooInceste doit, selon moi, servir à cela pour celles et ceux à qui c'est arrivé, que cela soit audible, recevable, réhabilité à sa place d'accident de la vie. C'est à cette condition que nous pourrons tous, victimes et proches de victimes, enfin parler d'autre chose. »
Un dernier mot, Claudia, pour aller plus loin en podcast, tu nous conseilles une série de podcasts à propos de l'inceste produit par Louis Média.
Oui, c'est une série qui est sortie au mois de septembre, il me semble. C'est une série qui est absolument passionnante, avec un travail extrêmement fouillé, extrêmement précis sur l'inceste. Moi, je l'ai écouté au moment où c'est sorti. Je ne savais pas, évidemment, que ça serait un sujet dont on parlerait autant dans les médias en ce début d'année. Ça s'appelle « Ou peut-être une nuit », en référence à la chanson de Barbara, « L'aigle noir ». Et c'est absolument bouleversant.
Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.